When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast spécialisé dans le football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport, et ce lundi, le programme est encore chargé puisqu'on débutera cette émission avec Elton Mokolo autour de la Ligue 1. On parlera du cas Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain, mais également de l'Olympique Lyonnais où l'espoir peut-être pourrait renaître. On ira ensuite en Angleterre avec Philippe Auclair pour parler de Manchester City après ce match nul fou face à Tottenham. On parlera d'arbitrage évidemment, mais aussi de bilan global des Citizens. Est-ce que City a un souci? On lui posera la question. Et enfin, on terminera cette émission par débriefer le match entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Joao Félix a joué un mauvais tour à ses anciens coéquipiers et on se penchera également sur le cas de Robert Lewandowski en mal de but actuellement. Vous connaissez le petit topo, Tour d'Europe est à retrouver tous les lundis sur vos plateformes d'écoute préférées. Il suffit de taper Eurosport FC et vous aurez en bonus le FC Stream Team tous les vendredis. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur Eurosport.fr et sur l'application pour retrouver les meilleurs moments de cette émission qui démarre tout de suite. Et allez, on démarre par la Ligue 1, on retrouve Elton Mokolo. Salut Elton, comment ça va après ce nouveau week-end français ?
Bonjour Cyril, bah écoute, ça va. Pour le coup, on a eu un week-end qui a été quand même intéressant sur les matchs de Ligue 1 entre vendredi avec la victoire de Reims, le Monaco-Montpellier qui a été absolument pas inintéressant avec la victoire monégasque, et bien évidemment le PSG-Marseille-Rennes pour clôturer cette journée de Ligue 1.
Alors le PSG, on va commencer par ça si tu le veux bien Elton, et notamment par un homme qui a connu une semaine très très délicate. On parlait du PSG la semaine passée qui sortait de son match référence peut-être de la saison face à Monaco. On avait un petit peu passé sous silence évidemment l'erreur de relance de Donnarumma. Finalement face à Newcastle il coûte un but, et face au Havre ce dimanche sa sortie mal maîtrisée, c'est le moins qu'on puisse dire, entraîne son expulsion. Est-ce qu'il y a un vrai problème Donnarumma au PSG?
Un vrai problème Donnarumma, je n'irai pas jusqu'à dire ça, je ne dirais pas que c'est un vrai problème, mais c'est préoccupant, c'est préoccupant. Après, on joue sur les mots, on flirte avec au niveau sémantique, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a Dr Gianluigi, Mr Donnarumma, à savoir un gardien qui est capable de faire des parades qui sont très importantes. À côté de ça, un gardien qui fait des erreurs qui sont condamnables et qui permettent pas au PSG de prendre le maximum des points. Je fais référence à la Ligue des Champions. Et hier, il y a une expulsion qui est précoce. Bon, ça ne porte pas à conséquence sur le résultat final. Mais quand même, la semaine prochaine, Donnarumma sera suspendu. On va le revoir en Ligue des Champions. Donc, ça reste préoccupant de voir Donnarumma parce qu'à un moment donné, on doit compter sur un gardien qui en est à sa troisième saison avec le PSG. Un gardien qui doit davantage s'installer comme l'un des référents du côté du PSG. Et de manière factuelle, au cœur de l'hiver dernier, quand ça a été un peu plus compliqué pour le PSG, il était le joueur référent. Et là, pour le coup, c'est pas nécessairement le cas.
Son remplaçant s'est illustré face au Havre, Tenas, qui a été brillant, il faut le dire, qui est aussi un petit chouchou de Luis Enrique, qui l'a ramené au Paris Saint-Germain, notamment pour son jeu au pied. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première, tout simplement?
Pour sa première dans l'élite, il a vraiment été impressionnant. Et c'est le mot pourquoi je dis impressionnant. Je l'utilise pas par hasard parce que c'était ses premières minutes. Parce que faut savoir qu'avec le FC Barcelone, il jouait du côté de l'équipe réserve, principalement en troisième division. Là, le fait d'être projeté en Ligue 1 pour ta première avec le PSG, avec tout ce que ça représente à l'extérieur, dans des circonstances où le PSG est réduit à 10, faut quand même signaler ça. Mais après, est-ce qu'on est surpris par ce que peut montrer Arnaud Tenas? Non, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de l'équipe réserve du Barça, il sort d'un grand Euro Espoir où il avait été quand même finaliste face à l'Angleterre. Et donc, on voit un gardien qui est quand même pétri de confiance, qui est quand même pétri d'assurance. Et c'est quand même rassurant pour le PSG parce qu'aujourd'hui, notamment pour challenger Donnarumma, il faut un numéro 2 qui, entre guillemets, soit capable de raccourcir la distance entre les deux joueurs. Alors, bien évidemment, Donnarumma reste le numéro 1.
Ouais.
Mais à côté de ça, Luis Enrique, je pense qu'il a quand même eu une conviction forte en mettant Tenas numéro 2 et qu'il a été récompensé.
Alors, mon cher Elton, une fois n'est pas coutume, on va parler de l'Olympique lyonnais. C'est quand même un sujet qui revient souvent sur le tapis en Ligue 1 cette saison. L'OL mal payé à Lens, il faut le dire, mais l'OL qui reste lanterne rouge de Ligue 1, une défaite 3-2 avec un penalty, un CSC et une énorme erreur individuelle de O'Brien qui a sanctionné finalement un match assez plaisant. Il y a eu 7 tirs cadrés, je crois. 3 expected goals, ce qui est le meilleur total de Lyon cette saison en Ligue 1. Est-ce que pour ce premier match de Pierre Sage qui succédait à Fabio Grosso, l'espoir renaît pour Lyon?
Ce qui est marrant, c'est que je n'ai pas évoqué ce match en préambule parce que j'attendais un peu, mais c'est vrai que ça a été un match de qualité, le meilleur match de Ligue 1 ce week-end.
Ouais.
Alors, je suis totalement d'accord avec Pierre Sage quand il interdit le fait d'évoquer
Une
le
défaite.
concept de défaite encourageante. Mais par contre, c'est vrai que la prestation a vraiment été intéressante, a vraiment été intéressante parce que j'ai vu une équipe qui était ordonnée, j'ai vu une équipe qui était appliquée, j'ai vu une équipe qui était compétitive, malgré la défaite. Ordonné dans le sens où on avait une structure, ce qui n'a pas été souvent le cas du côté de
Ah non,
l'Olympique
c'est sûr.
Lyonnais, appliqué parce qu'on a vu une équipe en capacité d'avoir des occasions réelles dans les derniers mètres lensois, ce qui n'a pas été forcément le cas avant. Et même si Lens est beaucoup moins bien que la saison dernière, ça reste quand même une performance à saluer et compétitive parce que tu t'es donné les moyens de faire le match à Lens. Maintenant, tu n'es pas récompensé parce qu'au final, il y a une défaite. Et la défaite, comme le dit Carlo Ancelotti, c'est une sanction. Mais à côté de ça, il y a des motifs d'espérer et je pense que ça a incité les dirigeants lyonnais à se dire que pour l'instant, on va peut-être ralentir au moment de chercher un nouvel entraîneur parce que aujourd'hui, on est sur une période charnière pour l'Olympique lyonnais. On ne peut pas se tromper quant à l'identité du futur entraîneur et je pense que Pierre Sage aura de la continuité déjà au Vélodrome, mais ensuite face à Toulouse à domicile.
J'ai une question un peu directe, mais quand on voit la prestation qu'a fournie Lyon à Lens samedi, est-ce que tu as trouvé que Lyon avait un fond de jeu beaucoup plus plaisant et donc à même peut-être de rapporter plus de points que celui de Strasbourg, de Lorient, de Clermont, voire même de Montpellier ou Toulouse, qui sont 13e, 14e, qui sont en dehors de la zone rouge, mais qui, par séquence, produisent beaucoup moins que ce qu'a produit Lyon à Lens samedi?
Oui, là-dessus, je suis d'accord, mais encore une fois, il faut quand même garder de la mesure parce que on peut mettre ça peut-être sur le compte de l'euphorie, sur le fait d'avoir un nouveau discours. On sait comment ça se passe. Le premier jour de rentrée, tu as quand même envie d'être au taquet avec ton nouveau professeur, en l'occurrence Pierre Sage. Donc, il faudra que ça se confirme sur la durée, à commencer par le déplacement au Vélodrome et puis le match face à Toulouse. On aura une semaine de compétition, ça sera un indicateur suffisamment intéressant pour voir si les joueurs lyonnais sont convaincants dans un premier temps et convaincus par le discours de Pierre Sage pour pouvoir se dire que effectivement le contenu par rapport aux autres adversaires directs, il est mieux. Parce qu'il y a l'aspect comptable, bien évidemment, qui
Bien sûr.
prédomine, mais à côté de ça, il y a le contenu qui doit être beaucoup plus intéressant pour gagner de la confiance. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé face à Lens, on a quand même des joueurs pour cette situation, qui sont quand même de qualité pour se sortir de cette situation.
Lyon peut aller chercher un résultat mercredi au Vélodrome?
Totalement, totalement, oui, je dis avec conviction, Lyon peut aller chercher un résultat, parce que on a vu dimanche soir, même si Rennes prend 3-0,
Ouais.
même le propre Gattuso a expliqué que la prestation n'était pas bonne. C'est surtout l'Olympique de Marseille qui, à l'instar de ce qu'ils ont montré jeudi dernier contre l'Ajax, ils ont été quand même très opportunistes.
Ouais.
Ils ont bénéficié des circonstances, grand mérite à eux parce que ça n'a pas souvent tourné en leur faveur. Et maintenant, quand tu regardes la performance de l'Olympique Lyonnais, quand tu regardes la fragilité de l'Olympique de Marseille, aujourd'hui, moi, je m'attends à un match ouvert. Je m'attends à un match ouvert où les deux équipes peuvent l'emporter, mais Lyon ne va pas arriver avec un énorme complexe d'infériorité. Lyon ne va pas arriver en se disant, on est 18e et l'Olympique de Marseille est largement au-dessus de nous.
Ouais.
Non, je pense qu'il y aura match et que l'Olympique Lyonnais peut profiter justement du fait que l'Olympique de Marseille, version Gattuso, n'arrive toujours pas à trouver son rythme de croisière au niveau du jeu.
Eh ben merci beaucoup Elton pour cette introduction très efficace, symbolique de ce week-end de Ligue 1. Nous, on va quitter la France et on va aller désormais en Angleterre. Allez, on atterrit donc en Angleterre. On retrouve Philippe Auclair, notre correspondant au Royaume. Comment ça va, Philippe, en ce lundi matin, après encore un week-end anglais plein de dramaturgie, plein de buts et plein de polémiques?
Oui, pas le genre de week-end où il fallait quitter les stades où avant le coup de sifflet final. Ça devient une mauvaise ou une bonne habitude ouais. du championnat d'Angleterre.
On aimerait bien avoir la même en Ligue 1, hein, donc rassure-toi, c'est plutôt une bonne habitude.
Ah bon? Non, mais tu sais, mais quand tu connais l'habitude justement du public des stades anglais qui ouais. a tendance à partir assez tôt, là, je pense que ça va changer quelque chose dans les comportements parce que tu vois ce qui s'est passé à Liverpool, tu vois ce qui s'est passé dans le match Aston Villa à Bournemouth, tu vois ce qui se passe à Manchester City, voire même ce qui s'est passé à Arsenal où ça a été très, très, très chaud jusqu'à la dernière seconde. Ouais. Oui, bah voilà. Et hier, ça n'a pas manqué à ce qui est devenu une bonne habitude, des matchs à suspense au rasoir. 24 buts en 5 matchs, nouveau record pour un dimanche en Angleterre. Bref, c'est pas de sujet de conversation que nous allons manquer.
Exactement. Alors avant d'évoquer la première ligue, il y avait quand même une grosse actu ce samedi avec le tirage au sort de l'Euro 2024. Mm-hmm. On en a beaucoup parlé en France, on a déjà débriefé ce groupe D avec l'Autriche et les Pays-Bas pour les Bleus. Au Royaume, on s'est penché évidemment sur le groupe C, celui de l'Angleterre avec la Serbie, la Slovénie et le Danemark. En un mot, ça devrait le faire.
Ça le fera. Ouais. Hein, c'est devenu, oui, ça le fera. Je dirais que c'est un peu l'Angleterre, équipe du top 3 ou top 4, si on faisait une image, tu vois, si on faisait une comparaison avec un championnat, jouant contre des équipes de milieu de tableau sur terrain neutre. Donc, a priori, ça devrait le faire. En plus de ça, le premier match, bon, c'est contre la Serbie, le second, Danemark, ensuite Slovénie pour conclure. L'équipe piège, c'est bien évidemment le Danemark. On sait qu'ils sont capables de grandes choses dans les compétitions internationales. Ils l'ont prouvé tellement de fois. Mais là, le fait de commencer contre la Serbie, si les Anglais font le boulot contre la Serbie, ce qu'ils devraient faire, franchement, je ne vois pas ce qui peut les empêcher de remporter ce groupe. C'est devenu une bonne habitude de l'Angleterre de Gareth Southgate. Les qualifications se passent sans aucun problème. Les phases de groupe se passent également sans aucun problème. Ça a tendance à coincer plus tard dans les compétitions. Ouais. Mais là, je dirais que la mission, ça va être de terminer premier du groupe. Parce que si tu termines premier de ce groupe, regardant un petit peu les permutations, ça veut dire que tu ne rencontrerais un autre vainqueur de groupe qu'au stade des demi-finales. Okay. Ce qui, évidemment, serait quand même un avantage. Oui. Par contre, c'est plus compliqué si tu termines deuxième ou troisième. Mais bon, a priori, pour l'Angleterre, ça ne devrait pas poser de problème.
Pour ne rien cacher à nos auditeurs, tu nous as aussi prédit une petite surprise dans le groupe A, celui de l'Allemagne, avec la Hongrie, la Suisse, mais surtout l'Écosse, qui pourrait bien être une des attractions de cet Euro, finalement.
Oui, absolument. Si l'Écosse continue sur la lancée de ce qu'on a vu en qualification, cette équipe de Steve Clarke complètement transformée, avec des joueurs... des vrais leaders dans cette équipe d'Écosse, des joueurs comme Andy Robertson qui sera rétabli, des joueurs comme Scott McTominay qui s'est découvert des qualités de buteur qu'on lui ignorait complètement, et puis John McGinn qui est tout simplement absolument magnifique avec Aston Villa en ce moment, très créatif, très imaginatif, un très fort esprit de groupe. Et franchement, c'est pas un cadeau pour l'Allemagne de rencontrer l'Écosse pour son match d'ouverture. Quand en plus tu sais que c'est la Tartan Army, donc tu peux compter sur la présence de 20 000 à 30 000, voire 40 000 Écossais dans la ville où les Écossais joueront. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Et c'est exactement de la même façon que les Écossais avaient totalement surpris les Espagnols lors des qualifications, que tu connais quand même les problèmes de l'Allemagne. Alors on dit bien évidemment l'Allemagne est en phase de reconstruction en ce moment. Mais est-ce qu'ils auront suffisamment de temps pour faire cela, pour se reconstruire suffisamment? Et je me dis que l'Écosse est capable de frapper un grand coup et de jouer un sale tour à l'Allemagne dès le match d'ouverture. Okay. Alors après, est-ce que ça veut dire que les Écossais se qualifieront? J'en suis pas certain parce que c'est une grande tradition de l'Écosse. Tu fais toujours une grosse performance dans un match de poule. Ouais. Hein, c'est la fameuse victoire contre les Pays-Bas dont on nous parle toujours. Ça commence à dater, mais c'était un match de légende. Là, ils peuvent faire un coup contre l'Allemagne. Et puis ensuite, derrière, la Hongrie et la Suisse. C'est aussi pour ça que je crains un petit peu pour les Allemands, parce que tu as une équipe de Hongrie qui est en plein renouveau.
Ouais, tout à fait.
Une équipe de Suisse qui est toujours hyper difficile à bouger, même s'ils ont failli se prendre les pieds dans le tapis lors des qualifications au dernier moment. Mais toujours difficile à bouger. En plus, un derby, on va dire ça comme ça. Hein. Et tu te dis, oulala, pour les Allemands, ça va être compliqué. Pour les Écossais, ma foi, il y a un coup à jouer, franchement.
Alors, mon cher Philippe, on va passer à la première ligue. Je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par une insulte et je m'en excuse. C'est what the fuck, le commentaire de Erling Haaland sur X, le réseau social anciennement Twitter, après la dernière action d'un match complètement dingue entre Manchester City et Tottenham. Une dernière action qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler en Angleterre. Pourquoi ? Parce que Erling Haaland avait lancé Jack Grealish dans la profondeur après avoir été victime d'une faute. Dans un premier temps, l'arbitre du match avait laissé l'avantage avant finalement de siffler. Est-ce que c'est ça qu'il faut retenir de ce match d'abord et cette décision arbitrale qui fait beaucoup parler en Angleterre ?
Non, c'est pas ça qu'il faut retenir de ce match, même si encore une fois, l'arbitrage est en une pratiquement tous les week-ends maintenant. C'est pas un problème de VAR, c'est un problème de décision arbitrale prise sur le terrain. Ouais. Là, j'avoue que un petit peu comme tout le monde, j'ai toujours du mal à comprendre ce qui s'est passé. En ce sens que l'arbitre de la rencontre voit une faute sur Erling Haaland, mais a le bon réflexe qui est de laisser jouer l'avantage. Et tout d'un coup, ben, finalement, il a le sifflet aux lèvres et puis il souffle. Alors, est-ce qu'il a éternué Je ne pense pas. Simplement, il a eu un de ces moments, c'est une fraction de seconde, c'est une erreur.
Ouais.
Mais c'est une erreur humaine. Et dire oui, c'est pour ça que Manchester City a perdu 2 points, n'exagérons rien. D'une part, on n'a absolument aucune certitude que le but aurait été marqué. Ouais. Certes, c'était une occasion, c'était une belle occasion à 1 contre 1, mais tous les 1 contre 1 ne finissent pas nécessairement au fond des filets. La décision, il est très difficile de l'expliquer. C'est une erreur, il n'y a rien à lire d'autre de là-dedans qu'une erreur humaine. Et bon, passons, la réaction à chaud se comprenait.
Ouais.
La frustration est totalement normale. Après un match dans lequel, justement, cette frustration a été autant, à mon avis, engendrée par les problèmes qu'a connu Manchester City que par la décision arbitrale.
Ouais.
C'est surtout ça, c'est la colère qui a explosé en Erling Haaland, était la colère qu'il ressentait également contre lui-même. Je crois que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter et se poser plus de questions sur le déroulé d'un match complètement fou. Mais même dans cette folie, dans ce chaos organisé ou désorganisé qu'a été cette rencontre, on a eu malgré tout la confirmation de certaines tendances qu'on avait déjà observées les semaines précédentes ensemble, Cyril, que ce soit du côté de Tottenham ou du côté de Manchester City.
Alors, on reviendra après sur le Tottenham de Postecoglou qui est décidément vraiment surprenant et très, très... plaisant, tout simplement.
Séduisant, enthousiasmant, tout ce qu'on voudra, absolument.
Tu as évoqué les problèmes de Manchester City, j'aimerais bien qu'on en parle parce que ça commence à s'accumuler. City est sur 3 nuls de rang. City a 30 points et n'est plus leader puisque c'est Arsenal qui a pris la tête et même Liverpool est passé devant Manchester City, donc City n'est que 3e. On s'est amusé à regarder après 14 journées, depuis l'arrivée de Pep Guardiola, le total des points de Manchester City à cette époque-là de l'année. Avec 30 points, c'est une des plus mauvaises cuvées, on va dire, de Pep Guardiola avec City. Et ça n'est sans doute pas un hasard, les années où ça a été un petit peu similaire en termes de points, c'est des années où City n'a pas été champion. Est-ce qu'on a déjà tiré la sonnette d'alarme à City ?
On devrait. Alors cette alarme, elle est très relative, la moyenne de points qu'ils ont en ce moment, c'est juste au-dessus de 2, donc c'est une moyenne de top 4, c'est pas nécessairement une moyenne de champion. Les champions ont généralement été sacrés avec des moyennes de points supérieures les saisons précédentes, mais cette saison ressemble pas vraiment aux autres, dans la mesure où il y a, comme on le disait la semaine dernière, on a 3, 4, voire 5 prétendants potentiels au titre, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais oui, il y a des choses il y a des chiffres qui retiennent l'attention, ceux que tu as donnés, mais moi j'en ai quelques autres. Alors, 3 matchs sans victoire en Première Ligue, c'est une première depuis l'arrivée de Pep Guardiola.
Ouais, rien que ça,
c'est incroyable, mais c'est vrai. 10 buts concédés en 4 matchs. La plus inquiétante pour moi, c'est 12 points sur 24.
Ouais.
C'est pas beaucoup. Mm-hmm. C'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Ça, c'est pas un rythme de champion du tout. Et c'est plutôt la tendance. Un mois de décembre qui va être, je crois qu'il y a encore 8 matchs à jouer pour Manchester City en ce mois de décembre. C'est beaucoup. Et puis, il y a d'autres statistiques qui sont intéressantes, qui sont un peu plus subtiles. Mais quand tu regardes les expected goals, par exemple, tu te rends compte que, au niveau expected goals, Manchester City tourne à 1,3, 1,4 et qu'en fait, ils sont en surperformance au niveau de la concrétisation des occasions.
D'accord.
Ce qui n'est pas toujours un bon signe. Alors, ça veut dire d'une part que c'est des joueurs exceptionnels dans la finition, la technique et tout ce que tu voudras, et que donc, de ce fait, la façon dont on calcule les XG Je veux dire, tu calcules pas, tu calcules les XG d'une manière aussi objective que possible.
Ouais.
Et donc, t'as pas toujours des Bernardo Silva et des
Bien
Erling
sûr.
Haaland, voilà, et des Phil Foden. Mais donc, à ce niveau-là, et aussi, on constate que si Manchester City concède pas beaucoup plus de tirs, en fait, c'est quasiment les mêmes chiffres que l'année dernière.
Ouais.
Par contre, les adversaires marquent beaucoup plus souvent. C'est-à-dire que c'est l'inverse des expected goals. C'est les expected goals against. Ça signifie donc qu'il y a un problème défensif. Ça signifie donc qu'il y a un problème défensif.
Comment on l'explique, ce problème défensif? Parce que c'est vrai que c'est une des très grandes forces du City de la saison passée, qui était la meilleure équipe d'Europe, peut-être parce que c'était la meilleure défense d'Europe.
Oui, et puis qui vient de faire 4-4 contre Chelsea et 3-3 contre Tottenham et était mené 2-0 par le RB Leipzig en Ligue des Champions,
ouais.
Avec son 11 type. Alors, il y a plusieurs, enfin, des explications, des tentatives d'explications.
Ouais. Des pistes.
Alors, l'une de celles-là, qui commence à être mise en avant par pas mal d'analystes tactiques britanniques, c'est le fait que Manchester City joue sans véritable arrière latéraux. Hein, Guardiola a tendance à prendre des arrières centraux et à les faire jouer sur les côtés. C'est un peu comme ça qu'il procède, et avec un de ses arrières centraux qui vient se placer en milieu de terrain, dans le fameux rôle à la John Stones, qui au passage n'est pas présent en ce moment et qui manque.
Ouais.
Et du coup, tu as un manque de soutien sur les côtés, d'une part, pour que ce soit pour Jérémy Doku, ou ça peut être Bernardo Silva, ou ça peut être Phil Foden, tu as un manque de soutien. Et puis surtout, tu as des adversaires en face qui se disent, tu sais quoi? Comme l'a fait Postecoglou, on va viser les points faibles de City, entre guillemets, points faibles, hein, c'est toujours très relatif,
ouais.
Mais le fait qu'ils n'ont pas de latéraux spécialistes du poste, ça veut dire que peut-être on peut se concentrer sur ses flancs. Ce que Tottenham a fait, d'ailleurs, au passage, avec Kulusevski, par exemple,
ouais.
Entre autres. Alors, il y a ça. Il y a le fait que tu as également une équipe qui... à laquelle il manque un certain Kevin De Bruyne.
Tout à fait.
Je veux dire, c'est aussi bête que ça. Tu as perdu quand même 3 joueurs. On l'a dit, il faut le répéter. Tu as perdu Ilkay Gundogan, qui a certainement été l'un des plus grands joueurs de Manchester City, je dirais du Manchester City de Pep Guardiola,
ouais.
Le premier joueur acheté par Pep Guardiola au passage, et qui manque beaucoup. Cette espèce de lien qu'il apporte, la façon dont il se projetait dans la surface de réparation, la façon dont il marquait aussi. Alors, Rodri est un joueur exceptionnel, ça on le sait, mais il n'a pas tout à fait le même registre.
Ouais, tout à fait.
Riyad Mahrez, le facteur X qu'apportait Riyad Mahrez, n'est plus là. Phil Foden, bien sûr, est en ce moment dans une forme éblouissante. Mais avant, il y avait Phil Foden et Riyad Mahrez. Ouais, maintenant, ouais. Il y a Phil Foden. Donc, il y a moins de... Il y a aussi... là, est-ce que ça doit être Doku, est-ce que ça va être Grealish sur le côté gauche? Donc, tu es encore dans une équipe en transition et à laquelle manque le grand Kevin De Bruyne, qui est quand même l'homme qui crée la plus grand nombre d'occasions,
ouais.
Et surtout l'homme avec lequel Erling Haaland, bon, qui fait une saison fantastique du point de vue mathématique, hein, on va pas dire le contraire, mais il lui manque son pourvoyeur numéro 1 en ballon de but.
Ouais.
Donc, tu mets tout ça ensemble, tu ajoutes des équipes qui en face ont perdu un petit peu leur complexe d'infériorité. Ce qui est le cas, parce que quand tu as en face Mauricio Pochettino avec Chelsea, tu sais très bien que Pochettino, même si Chelsea va pas trop bien, il va pas se recroqueviller. Tu
ouais.
rencontres Liverpool, 1-1 contre Liverpool, tu sais que Liverpool va pas dire non, après vous, messieurs les Citizens. Tu joues contre le Tottenham de Postecoglou, tu sais que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive,
ouais.
Ils vont y aller.
Ils vont y aller.
Tu joues contre l'Arsenal de Mikel Arteta, l'Aston Villa, au passage, prochain match de Manchester City,
ouais,
à Aston Villa, où Aston Villa a gagné 13 matchs de suite. On attend ça avec impatience. Bref, tu as affaire à des équipes qui sont plus proactives.
Ouais.
Et du coup, quand tu as affaire à des équipes plus proactives, eh ben, certains petits défauts de la cuirasse, qui sont juste des défauts de réglage, hein.
Ouais,
tu peux être certain qu'au printemps, je pense que tout ira bien pour City. Le problème, c'est qu'un rythme assez incroyable est aussi imprimé par Arsenal et par Liverpool,
ouais.
Que Aston Villa tient le coup, que Tottenham n'est pas si loin, que tout cela est tellement proche que tu n'as pas vraiment le droit à l'erreur. Et c'est pour ça que le prochain match contre Aston Villa est absolument crucial. Parce que là, s'ils perdaient des points une nouvelle fois, je ne dirais pas que le trou serait fait, mais je dirais que ça ferait se poser des questions, en effet, sur leur possibilité de revenir à temps pour être dans une position favorable, comme ils l'ont toujours été les années précédentes.
On va terminer par une note un peu romantique. J'aimerais juste un tout petit mot sur le Tottenham de Postecoglou quand même, parce que c'est une équipe qui a beaucoup, beaucoup d'absents actuellement, mais qui, grâce à un homme, semble convaincu en fait du bien fondé de son football et de ses idées. C'est assez éblouissant et rafraîchissant presque de voir ces joueurs-là qui sont pas des joueurs capés briller autant.
Oui, et jouer sans peur.
Ouais.
Quand ils font des erreurs, généralement on se recroqueville, on est frileux, on hésite à utiliser le plan de jeu qui avait été prévu par Postecoglou. Ouais. C'était pas le cas. La façon dont Tottenham a continué d'essayer de ressortir le ballon depuis sa défense, par moments, tu avais peur pour eux.
Hein. Ouais, ouais.
Parce que tu disais, oh là là, le pauvre Bissouma, il y a des moments où il avait quelques petits problèmes en particulier. Le fait que, bon, il joue quand même sans ses deux arrières centraux, il joue avec des latéraux qui sont arrières centraux en ce moment, tu te dis, mais c'est incroyable. Mais non, et malgré tout, il continue. Alors, c'est très risqué, parce que si Erling Haaland, qui a quand même manqué, il avait 5 tirs au but, aucun n'a été cadré, il manque 2 grosses occasions en première période, s'il les met au fond, c'est 4-1 la pause, match over. Bon, il ne les marque pas, et du coup, et après, en seconde période, dans un Tottenham, un petit changement tactique, si au passage, qui n'est pas une des choses dont on parle pour Ange Postecoglou, on parle souvent de sa capacité à libérer les joueurs, sa capacité à fédérer les joueurs, le côté, tu vois, sabre au clair. Mm-hmm. Mais là, il fait un changement, en ce sens, il fait sortir Hill, le cinquième Beatle, et il fait entrer Højbjerg, qui n'est pas du tout un joueur à la Postecoglou.
Ouais,
mais le truc, en fait, c'est parce qu'il veut que Lo Celso joue en position de numéro 10. Qui est-ce qui marque le but de l'égalisation? C'est Lo Celso qui fait une deuxième mi-temps brillante. Et tu regardes, et en deuxième mi-temps, ce petit changement tactique fait que, pendant au moins 20 minutes, Tottenham a plus de possession du ballon que Manchester City à Manchester City. C'est incroyable. Insensé. Ouais. Donc, c'est à la fois un football enthousiasmant, séduisant, tranchant, tout ce que l'on voudra, imaginatif, à haut risque, et super plaisant à regarder pour les neutres, et puis pour les fans de Tottenham, qui sont complètement, alors eux, c'est des anges fans, des angéophiles, des angélophiles convaincus maintenant, mais c'est aussi une politique à haut risque qui peut payer. Et là, en plus de ça, ils sortaient, ils avaient 3 matchs quand même qu'ils avaient perdu en grande partie à cause des absences, parce que c'est pas un effectif si riche que cela. Est-ce qu'ils vont changer leur attitude? Non.
Non.
Et même pas chez le champion devant le champion. Je pense que comme moi, tu auras vu l'embrassade entre Guardiola et Postecoglou au coup de sifflet final.
Ouais, il y avait déjà des mots avant le match qui étaient indicateurs d'une vraie relation entre les deux, et ça s'est vu après.
Absolument.
Eh ben, merci beaucoup Philippe pour ce petit soleil anglais qui est Ange Postecoglou et pour ce point sur Manchester City. Nous, on va quitter l'Angleterre et on rejoint désormais l'Espagne. Et allez, on termine ce Tour d'Europe par un détour espagnol. On retrouve Anna Carone, spécialiste Liga. Comment ça va, Anna?
Ça va très bien, toi?
Ça va bien. Écoute, un week-end plutôt classique en Liga. Le Real, d'abord, qui s'impose. Et on va commencer par là. Une victoire 2-0, signée Brahim Diaz et Rodrigo. Et je crois notamment que tu voulais nous toucher un petit mot du Brésilien qui était très attendu cette saison, finalement, pour pallier. C'était une des réponses, en partie, au départ de Karim Benzema. Sur les derniers matchs, il ne déçoit pas.
Non, sur les derniers matchs, il est sur des très grosses performances. 7 buts en 5 matchs, 4 passes décisives. Et puis, en plus, ce n'est pas des petits buts. Hein. On est vraiment sur des très beaux buts, globalement. Là, il a encore marqué contre Granada ce week-end. C'est des performances qu'on retrouve parce qu'il avait eu un passage comme ça la saison passée. C'était déjà pendant une blessure, pendant celle de Benzema. Et là, maintenant, c'est celle de Vinicius. Il est normalement dans ce doublé un peu d'attaque avec Vinicius et Bellingham qui est juste derrière lui. Ouais. Là, Vinicius est blessé et il n'a pas le même rôle que lorsqu'il joue avec Vinicius. Il a un rôle à faire beaucoup plus des appels en profondeur, à aller chercher plus la défense adverse, alors que souvent c'est Vinicius qui se charge de ça. Ouais, lui, il est un peu plus comme un neuf quand il combine avec Vinicius. Là, fait est que Vinicius n'est pas là et que celui qui le remplace souvent, c'est donc soit Rossellou, soit Brahim Diaz. Et c'est pas les mêmes profils parce que du coup, Rossellou va jouer le rôle que lui, il avait. Et sinon, Brahim Diaz, lui, va être beaucoup plus un pourvoyeur de ballon, en numéro 10, en fait, le poste qu'il occupe de base. Et on a une très très belle version de Rodrigo qui confirme tous les espoirs qui sont placés en lui par le Real Madrid depuis qu'il est arrivé en Espagne. Et c'est surtout qu'il y a eu un moment où en Espagne, du côté de la presse madrilène, on disait que Rodrigo avait réussi à faire oublier une potentielle arrivée de Mbappé. Et les dernières stats de Rodrigo semblent un peu confirmer ce côté-là parce que il a cet aspect de d'ailier qui est capable de rentrer à l'intérieur, ouais. Mais que quand il joue aussi dans l'axe, il est très bon. Il n'a pas les mêmes réflexes qu'un buteur classique, ouais, qu'un Rossellou, par exemple. Mais il est très, très, très efficace en ce moment et il fait beaucoup de bien au Real Madrid parce que quand on voit la cascade d'absents qu'il y a, il faut que les remplaçants ou ceux qui sont moins dans la lumière d'habitude fassent le job. Et lui, pour le coup, ça lui réussit très bien.
Tu m'offres une belle transition puisqu'il y a un homme dans la lumière ce lundi matin au sommet de la presse catalane, c'est évidemment João Félix et on va débriefer la victoire du FC Barcelone face à l'Atlético dimanche dans un match plutôt sympa. Voilà, on a suffisamment critiqué la Liga dernièrement pour rappeler quand même quand les matchs et le contenu des matchs est intéressant. Déjà peut-être avant de parler de João Félix, la semaine passée du Barça, il y a quelques temps on parlait du Barça et on se disait voilà, c'est un petit peu compliqué. La semaine passée par le FC Barcelone a remis beaucoup, beaucoup de sérénité au quotidien.
C'est vraiment ça qui manquait du côté du Barça parce qu'il y avait eu cette défaite en Allemagne avec le Shakhtar. Après des matchs qui ne se sont vraiment pas bien enchaînés. Le Barça qui avait aussi beaucoup d'absents. Ouais. Là, du coup, le Barça a récupéré Pedri, Frankie de Jong.
Ça s'est vu, hein, Pedri.
Frankie de Jong au milieu, voilà. Donc, c'est beaucoup de bonnes nouvelles qui arrivent d'un coup pour le Barça avec juste la blessure de Marc-André Ter Stegen, mais Iñaki Peña qui fait bien le travail dans les buts en attendant. Et hier, la victoire, elle est importante beaucoup pour le mental.
Ouais.
C'est Xavi qui le dit en conférence de presse. Il parle aussi du fait que la victoire contre Porto et donc cette qualification pour les huitièmes a vraiment soulagé l'effectif parce que, bah, on se souvient, hein, le Barça se qualifier en huitième de Ligue des Champions, c'est plus autant la routine qu'avant. Donc, il y a Xavi qui parlait pendant des semaines, les semaines passées, d'un problème mental, de déclic, etc. Bon, bah, semble-t-il qu'il avait raison, puisque cette victoire contre Porto, cette qualification pour les huitièmes en Ligue des Champions semble avoir fait passer un cap, tout cas dépasser le mauvais moment que passait le Barça actuellement. Et hier, c'était une très belle prestation, très très aboutie de la part du Barça et dans toutes les lignes, parce qu'il y a eu un très beau milieu de terrain, une belle attaque qui a fait beaucoup d'appels en profondeur, beaucoup de mouvements, beaucoup etc. En fait, ouais. Et c'est des choses qu'on voyait plus forcément ces derniers matchs et une belle solidité défensive. Ça, c'est plus ou moins la routine aussi depuis l'arrivée de Xavi, mais c'est quand même très important parce que l'Atleti, même s'ils ont l'image d'une équipe défensive, cette saison, l'Atleti a marqué énormément de buts et très redoutable en attaque avec Griezmann, Morata, etc. Donc ça reste une victoire de prestige, 1-0, même si, comme disait Xavi, ils auraient pu marquer plus de buts.
Il y a un homme évidemment qui est en une des quotidiens, c'est João Félix. Je vous conseille d'aller voir son but qui est d'une finesse technique assez incroyable, un petit piqué du gauche en bout de course pour battre Oblak. Voilà, il était attendu puisque vous le savez, João Félix est prêté par l'Atlético de Madrid au FC Barcelone. Il avait parlé avant le match, peut-être un petit peu trop, mais il a assumé. Là aussi, João Félix, on est en train d'assister à la renaissance d'un joueur qu'on attendait à ce niveau depuis beaucoup, beaucoup d'années et qui, là, cette saison, semble grandir comme il faut avec Xavi et avec le Barça.
Oui, et quand on voit le match qu'il fait aussi contre Porto cette semaine, avec la combinaison avec João Cancelo aussi, avec qui il s'entend très, très bien en dehors et sur le terrain. Donc non, la performance de João Félix hier n'est pas forcément une surprise.
Ouais.
Par contre, c'est vrai que vu les petites piques qu'il avait lancées avant la rencontre en disant que tous les joueurs rêvaient de jouer comme le Barça et ceux qui disaient qu'ils aimaient la façon dont jouait l'Atlético, bah, en gros, c'était des menteurs.
Ouais.
Fallait assumer derrière.
Il
fallait assumer derrière, surtout qu'il y a eu des retours, hein, évidemment, de joueurs de l'Atleti qui ont dit on verra bien dimanche qui a raison. Donc là, c'est une victoire du Barça, une victoire pour João Félix.
Tout à fait.
Qui a été bien malmené pendant la rencontre. On sent que il y a des tensions avec le groupe de l'Atleti, qui s'est embrouillé avec Jiménez notamment. Il y a eu cette semelle de Hermoso dans la surface aussi, alors qu'il allait vers le but sur sa cheville. Donc match compliqué, je pense, pour lui. Match à tension en tout cas. Mais lui, d'un point de vue en tant que joueur, il a complètement rempli sa mission, même si sa célébration sur le but contre l'Atleti, contre le club qui le prête au Barça, bah, ça va rester dans son image. Et c'est sûr que, vu les déclats qu'il a tenus avant cette célébration, c'est difficile d'envisager un potentiel retour à l'Atleti à la fin de saison.
Tu réponds, tu anticipes mes questions, c'est parfait, Anna. J'aimerais bien qu'on parle d'un autre joueur, peut-être un petit peu plus en détail, c'est Robert Lewandowski. Parce que Robert Lewandowski traverse une saison un petit peu plus anonyme, on va dire. 8 buts en 17 matchs, donc ça reste quand même plutôt des bons standards. Mais on est sur une dynamique beaucoup moins positive avec 2 petits buts sur les 9 derniers matchs. Et surtout face à l'Atlético, on se plaignait les dernières semaines et lui se plaignait peut-être de ne pas avoir suffisamment de ballons. Il a eu beaucoup d'occasions et on n'a pas retrouvé l'œil du tigre en fait, de Lewandowski. Il se passe quoi autour de lui ?
Alors c'est un peu compliqué parce que Lewandowski, depuis qu'il est arrivé au Barça, il est arrivé comme la solution miracle, comme le joueur qui allait faire passer ce fameux cap des huitièmes, etc., en Coupe d'Europe. Et il a dû lui aussi s'adapter. Le championnat espagnol ne ressemble pas du tout au championnat allemand. Donc la saison passée, il fait une très grosse saison.
Statistiquement, c'est impressionnant.
Mais c'est sûr qu'il reste encore ce défaut de... dans le jeu, il a du mal encore à être soit au bon endroit, soit à réussir à décrocher dans le bon timing.
À être connecté, tout simplement.
Il a encore du mal, mais il se plaignait en début de saison de ne pas avoir assez de ballons, ce qui n'est pas totalement faux. En début de saison, le Barça avait beaucoup de mal à passer par ses ailiers. Joao Félix, il fait un très bon match hier, et Rafinha aussi d'ailleurs. Mais ce n'est pas le cas à chaque rencontre. Mm-hmm. Là, on va dire qu'il y a eu un ensemble où tout allait bien, et c'est vrai que dans ce cadre où tout va bien, on retient aussi les gros ratés de Lewandowski. On voit qu'il est en gros manque de confiance parce que à un moment donné, il a une tête à mettre et il est seul face au gardien. Et quand on se rappelle des actions qu'il avait du côté du Bayern, ces genres d'actions qu'il mettait à chaque fois, et là il apprend pleine tête, il apprend sur le nez. Donc on voit bien aussi que lui-même, peut-être, il est en train d'un peu de perdre des repères, perdre sa confiance, ça c'est certain. Le fait est que le Barça gagne, donc les ratés, la presse va pas trop en parler. Il va être un peu épargné là-dessus, mais faut pas oublier que même si cette saison il marque que 7 buts en championnat, ce sont des buts qui sont importants globalement pour le Barça, et c'est des buts qui l'ont souvent fait mettre en une des médias parce que c'est lui qui va chercher un 2-1, qui va chercher un 1-0. Et c'est des victoires qui sont capitales parce qu'aujourd'hui, le Barça n'est que 3e de Liga et il le doit aussi grâce au but de Lewandowski. Alors, peut-être que la confiance reviendra aussi avec ses victoires et qu'il sera, lui, moi aussi, sous pression.
Et on l'a lu aussi ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de son contrat qui est en or massif avec le FC Barcelone, qui s'étend jusqu'en 2026. La presse catalane évoquait la possibilité que ce soit... qu'on essaye de l'exfiltrer à la fin de la saison. Il a 35 ans, Lewandowski. Est-ce que tu penses que c'est une vraie tendance ou c'est simplement des bruits de couloir et que Lewandowski fait partie des plans de Xavi pour l'année qui vient et peut-être encore celle d'après ?
C'est un peu difficile à savoir parce que là, il va y avoir l'arrivée de Vitor Roque cet hiver. D'ailleurs, il a joué son dernier match hier à domicile avec l'Atlético. Ça va dépendre, je pense, beaucoup aussi de son adaptation à lui.
Tout à fait.
Si lui, en tant que numéro 9 devant, arrive très rapidement à se mettre dans ce que demande le jeu du Barça, c'est vrai que ça va être difficile d'envisager une saison supplémentaire avec Lewandowski, voire jusqu'en 2026 du coup. Dans un premier temps, Xavi, il aime beaucoup que les anciens montrent aux plus jeunes. D'ailleurs, quand Iñaki Peña, il fait sa parade main opposée, il rappelle que c'est aussi ce que Marc-André Ter Stegen fait souvent et qu'en gros, il l'a appris à l'entraînement et que c'est important d'avoir ces cadres-là qui montrent aux plus jeunes. Donc, difficile d'envisager que Lewandowski parte d'ici la fin de saison parce qu'il aura sans doute aussi ce rôle de grand frère, comme il l'a eu déjà avec Pedri, Gavi, etc., sur d'autres plans du jeu. Mais là, si Vitor Roque, il arrive du Brésil, il a besoin d'adaptation, il a besoin de comprendre déjà même la langue.
Ouais.
Donc, Lewandowski, il a un très très bon rôle au sein du vestiaire. Il est très important dans la cohésion et même dans l'aspect mental parce que lui c'est un grand champion, il a beaucoup d'expérience, donc il va au moins rester je pense pour cet aspect là et parce que même quand il est sur le banc, il n'est pas non plus... c'est pas le genre de joueur qui va faire des critiques ouais. outre mesure dans la presse, donc il va pas trop déranger, entre guillemets.
Et puis on connaît la théorie du ketchup, une fois que les buts arrivent, ils arrivent en pagaille. Et ben merci beaucoup Anna pour cet éclairage espagnol. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer le football européen. D'ici là, portez-vous bien.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.